Je dis souvent, au risque de choquer les gens, que je crois que je n'ai pas été éduqué pour être rwandais, mais que j'ai été éduqué pour être un Rwanda ambulant. De la part de parents qui voulaient être sûrs et certains que si le Rwanda était malmené et qu'il avait une chance de se réincarner en un seul individu, eh bien celui-là, ça serait moi. Eh bien, mon père, avant son départ, s'il lui restait une seconde à vivre, qu'il me regarde et qu'il dise « On peut partir en paix. Le Rwanda nous survivra. »
Grandir en exil a marqué le destin de milliers de Rwandais. Au cours des 25 dernières années, nombre d'entre eux sont revenus au Rwanda. Vous écoutez Catharsis, un projet photographique et radiophonique sur le rôle des arts à l'heure des transitions. Aujourd'hui, le comédien et dramaturge Diogène Atom Tarindwa nous livre ses réflexions sur le déracinement, l'identité et le rapport parfois mystique au pays d'origine. Le début d'une histoire commence quelquefois par sa fin. Écoutons celle de Diogène.
Il se trouve que je suis né dans un pays où les miens étaient étrangers. Et c'est par la suite que j'apprends qu'ils sont exilés, donc qu'ils sont réfugiés. Pour parler de la génération de mes parents, à aucun moment de leur vie, ils n'ont pensé qu'ils en arriveraient à quitter leurs racines, leur pays et compagnie. Donc du coup, il y a un contexte politico-historique qui font qu'ils n'ont d'autre choix que de quitter leur pays. Et ils n'ont d'autre choix à un certain moment de leur vie que de se déraciner, tout en nourrissant l'espoir de retourner un jour chez eux. Mais cet espoir-là, ça m'énuisant. Je dis souvent, au risque de choquer les gens, que je crois que je n'ai pas été éduqué pour être rwandais, mais que j'ai été éduqué pour être un Rwanda ambulant. De la part de parents qui voulaient être sûrs et certains que si le Rwanda était malmené et qu'il avait une chance de se réincarner en un seul individu, eh bien celui-là, ça serait moi. Et qu'il aurait importé que ma manière de marcher, d'éternuer, de me retourner, de danser et de m'adresser à quelqu'un, mon père, avant son départ, s'il lui restait une seconde à vivre, qu'il me regarde et qu'il dise, ou ma mère, qu'elle dise, on peut partir en paix. Le Rwanda nous survivra. Incarne-le pour très longtemps, cher fils et digne fils. J'ai l'impression que les gens des pays où on était n'avaient pas autant d'attachement à leur pays que les nôtres ou que nous en avions pour notre pays. Peut-être parce que nous n'y étions pas. Il y avait par exemple des émissions, j'avais écrit sur ça dans un texte qui s'appelle Le silence en parole, des émissions qui passaient sur Radio Rwanda. Quand Radio Rwanda s'invitait au salon, et qu'on était réunis autour de la table, et que le poste radio était placé quelque part, une place d'honneur. C'était limite un moment de communion spirituelle, en fait. Hein. C'était limite comparable à une messe, quoi. Donc, plus rien ne bougeait, plus personne ne parlait, plus personne éternuait. J'avais écrit sur ça que c'était comme pour laisser rentrer le Rwanda qui rentrait comme par effraction. Et donc nous, enfants, on avait du mal. Ces sons qu'on captait, qui n'étaient pas les meilleurs des sons, et cette musique, on aurait dit des gens qui psalmodiaient, et ces trucs qui avaient l'air les meilleurs du monde, de par l'émotion que ça faisait rentrer dans la maison, nos parents qui devenaient tout doux, enfin, et c'est quoi cette histoire? Et donc c'était ça le Rwanda, quoi. Et petit à petit, on y a adhéré. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on a revendiqué, on a porté ce Rwanda et cet univers avec une radicalité que nos parents n'avaient plus. Et la preuve, c'est que certains d'entre nous, quand le FPR il engage son action militaire avec une des conditions, un des idéaux, c'était le retour des réfugiés rwandais chez eux, le FPR a suscité une adhésion non seulement inconditionnelle, mais messianique. quand se passe le génocide au Rwanda, que toute la région est en ébullition, en fait, pour la plupart de la... En tout cas, toute la communauté rwandaise à l'extérieur, qui était là en attente de conditions propices pour le retour chez eux, ne se pose encore une fois que ce choix-là, que de retourner chez eux. Parce que les conditions d'inhospitalité par rapport au pays qui les accueillait avaient atteint leur paroxysme. On peut dire que voilà qu'on rentre chez nous, mais je ne suis pas sûr qu'ils avaient d'autre choix que de ne pas y retourner. Et idem pour le départ, en fait, avec des régimes qui sont plus ou moins hostiles à cette communauté de réfugiés rwandais. Donc le retour de réfugiés rwandais après 1994 sera fruit de ce contexte-là. Donc quand ils rentrent chez eux, la plupart des réfugiés, même ceux qui auraient aimé rester en exil un tout petit peu pour voir comment la situation évolue au Rwanda, ne pouvaient pas s'offrir un tel luxe. Ouais. Nos parents, ou la plupart d'entre nous, vont rentrer après le million de morts, après les millions d'autres compatriotes qui quittent pendant qu'on arrive. Et c'est un pays archi détruit, démoli dans tous les sens du terme, mais pour très, très longtemps. Et donc on ne célèbre pas. On reconnaît qu'on vit un moment particulier, pour la plupart d'entre nous tant espéré, et pour lequel on s'était engagé, pour lequel on s'était investi, pour lequel on s'était dépensé. Et le dénouement est très loin d'être ce qu'on avait imaginé, fantasmé, idéalisé. Et on en prend acte. Voilà, on prend acte du fait que désormais on est chez nous, mais le chez nous en question, il a besoin d'être pensé, il a besoin d'être reconstruit. On en prend acte. On sait que ça vient d'avoir lieu et que ça a coûté très 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 cher. Et puis voilà. Et ce qui urge, c'est de remettre debout tout un pays. Le Rwanda, je crois encore aujourd'hui, et pour très longtemps, n'a pas un statut d'évidence. Donc d'y être retourné, pour eux, c'est parti de loin. À un moment, c'était inespéré. Et une fois dedans, il y a comme une survivance de ce rapport-là, de quelque chose qu'il faut... comment dirais-je, qu'il faut... vis-à-vis de laquelle il faut rester vigilant, et de quelque chose qui était et qui est, et que j'espère va le rester pour très longtemps, précieuse. Donc nous, le Rwanda qui est venu vers nous, ça a été un Rwanda immatériel. Ce rapport-là, je trouve qu'il nourrit un certain type de citoyenneté et un certain type d'attachement, pour sortir une expression taboue vue de France, une certaine forme de patriotisme aussi. Et on en revient à un thème qui m'est très très cher, qui est le Rwanda immatériel. Et en fait, moi, c'est personnel, hein, j'attache un accent particulier au pays immatériel. Hein, et j'ai interrogé ça très longtemps, c'est peut-être parce que c'est ainsi que ce pays est arrivé à moi. Je crois que c'est Aimé Césaire qui disait qu'un peuple n'était pas un agrégat d'individus. Une fois qu'on a touché ou qu'on peut, comment dirais-je, célébrer ou jouir du pays dans sa matérialité, je ne veux pas que ça soit au détriment de l'immatérialité du pays, parce qu'on peut être tenté par ça. Et donc du coup, avoir souci de le garder vivace, de garder cet esprit vif et debout. Dès qu'il est question d'immatérialité, ben, il n'y a que l'art, je suis tenté de dire. Même quand il était question à un certain moment de fédérer, limite politiquement, l'art a eu un rôle central, mais un rôle qui ne pouvait qu'appartenir à lui. Et si l'art, et donc si les artistes se désengageaient de cette tribune-là ou de cette place-là, eh ben, ça serait très très inquiétant, et limite parce qu'il n'y a que eux à qui c'est dévolu. Je suis juste soucieux. Je suis très, très soucieux de la pluralité, des diversités, de perspectives et tout ça. Aujourd'hui, peut-être on déplorait un peu point de vue occidental, espèce de monopole, de bien-pensance et tout ça. Peut-être que demain, il sera de point de vue chinois ou asiatique par rapport à tout un pan de l'histoire ou du vécu du monde. Et que ce soit ça, ou ça ne me dérange pas. Du moment que moi ou les miens, nous avons droit à ce chapitre-là et que idéalement nous y sommes conviés. Ça veut dire que quand vous nous conviez, vous êtes soucieux que nous soyons présents. Alors quand nous n'y sommes pas conviés, à nous de mettre tout en place pour que nous nous y convions malgré eux et que nous puissions y rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Rwanda qui rentrait par effraction et qu'au futur, ceux qui s'arrogeaient le droit de parler sur nous se disent ce n'est plus tenable, ce n'est plus possible, qu'ils ne puissent plus jamais imaginer ça sans nous. Et que notre point de vue aussi ne fasse pas parole d'évangile. Je ne traite pas que de quelques sujets en particulier, mais jusque-là, j'ai souvent été sur des terrains tels que mémoire, tels que identité, parce qu'il m'importait beaucoup que ne tombe pas dans l'oubli ce qui a l'air d'avoir donné quelque chose de salutaire pour ce pays. Ça serait démagogique de ma part de parler d'autres sans parler d'une pièce de théâtre qui est en seule en scène. C'est une pièce qui s'appelle Carte d'identité. J'ai quitté le droit que j'ai fait pendant 4 ans. Mais comme entre-temps j'avais été de cette jeunesse qui avait rejoint politiquement et militairement le mouvement FPR. Donc c'est très jeune adolescent que je me retrouve non seulement au Rwanda, ce fameux pays idéalisé, c'est pas comme ça que je le retrouve. Il est très loin d'être le meilleur à tout point de vue. Je le vois avec des cadavres à perte de vue. Je le vois démoli. Je ne vois rien qui puisse être le reflet des poèmes qui m'ont été chantés, transmis, tout ça. Et donc, du coup, donc il s'est passé quelque chose. Et je me retrouve à questionner cette chose que je veux disséquer, que je vais connaître dans ses moindres détails. Et quand, après l'armée, donc, je retourne aux études, j'ai été vers les arts parce que je voulais porter quelque chose, appelons ça un discours, j'étais porteur de quelque chose que j'arrivais délicatement à identifier. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr si j'y suis arrivé, mais il me semblait bien que l'art s'y prêtait mieux et que le théâtre était carrément la discipline la plus appropriée, peut-être parce que là, ce penchant multidisciplinaire. À la fin de mon cursus, je sors du conservatoire avec un projet qui s'appelle Carte d'identité, qui travaille sur la grande histoire et la petite histoire. Et donc, je suis sorti du conservatoire avec cette pièce que j'ai déjà jouée dans plus de 25 pays dans le monde. Et il y est question des aspects autobiographiques. Il y est question aussi d'hommage à mes aînés. Il y est question aussi, je crois que c'est quasi la première fois, si pas la seule, jusqu'à il y a peu, où on a une œuvre artistique qui s'attarde beaucoup sur l'exil, sur ce parcours d'exilé individuellement et collectivement, et sur l'engagement militaire. Donc du coup, j'ai choisi ces personnages pour le fait, pas seulement les personnages, mais aussi des moments, des contextes où je les évoque sur scène, pour la faculté à être des condensés de ce que je veux évoquer. Et ça se conclut par le retour aux origines. Et j'ai accompagné mon père
enfin chez lui. Et lui qui m'a toujours cassé les oreilles avec le « chez moi, chez moi, chez moi, chez moi ». La meilleure bouffe, c'est chez moi. La meilleure musique, c'est chez moi. Il m'importait beaucoup de le voir. Mais je lui avais pas dit que j'écrivais dessus. Et donc voilà, j'en ai parlé dans cette pièce-là et j'en ai parlé aussi dans un autre texte qui s'appelle « Le silence à parole ». Je parle du retour aux origines.